BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et un peu d'optimisme sur le front de la croissance. La Banque de France relève sa prévision pour le deuxième trimestre, plus 0,2%, alors qu'elle s'attendait à un coup d'arrêt du PIB. Cette révision devrait permettre à la croissance annuelle de se rapprocher de la prévision du gouvernement, fixée désormais à 0,7%, même si la Banque de France table, elle, plutôt sur 0,5% à ce stade. L'actualité des entreprises, marquée par l'annonce de cette grosse opération pour Xavier Niel. Le propriétaire d'Iliad va débourser un peu plus de 5 milliards d'euros pour devenir le premier actionnaire du Britannique Vodafone. Il va racheter la part détenue par Emirates Télécommunications. Les autorisations réglementaires sont attendues d'ici à la fin de l'année. Enfin, un mot de l'actu politique. Il n'y aura pas de primaire de gauche ouverte en vue de l'élection présidentielle. Les militants socialistes ont en tout cas choisi majoritairement de désigner leur candidat par une primaire réservée aux seuls adhérents du PS. Décision qui ouvre la voie à une participation de Raphaël Glucksmann, mais enterre celle du reste de la gauche hors LFI. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, ce ne sont pas les meilleurs professionnels de ce secteur qui nous accompagnent, non, les meilleurs journalistes de ce secteur du logement et de l'immobilier au sens large. Et à mes côtés aujourd'hui, Catherine Boquet et Sylvain Lévy. Et beaucoup de sujets à aborder. Évidemment, le fameux topoto de la semaine. D'ailleurs, on en profitera une fois qu'on aura dit quelles sont vos conditions d'emprunt en ce moment même et à l'aube de l'été. On en profitera pour vous dire qu'il existe l'assurance de prêt qui va avec le crédit et qui reste un levier important. Ensuite, il y aura plein d'autres sujets qu'on va aborder évidemment. On parlera de l'état du marché de l'immobilier ancien au sens large. On en profitera d'ailleurs pour parler de ce marché locatif et des tensions exceptionnelles qu'on continue de traverser sur ce marché. On parlera aussi dans le désordre immobilier tertiaire, canicule et location de vacances paradisiaques. Voilà le programme, allez, on y va.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et je le disais à mes côtés, Sylvain Lévy-Valency, le cofondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie, bonjour Catherine.
Et la journaliste indépendante formidable qu'on adore, Catherine Boquet. Bonjour,
bonjour
Catherine.
Marie, bonjour Sylvain. Bonjour.
Et là je m'adresse à notre réalisateur, le meilleur d'entre eux, Alban. C'est l'heure du jingle.
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Bah, ça bouge pas des masses quand même, hein. À l'aube de l'été, qu'est-ce qu'on se dit? On est autour de 3,5 là, à peu près, sur 20 ans, avec évidemment toujours des petits prêts à taux bonifiés qui nous permettent de négocier, d'avoir des taux plutôt agréables.
Oui,
quand même,
on a, contre toute attente d'ailleurs, puisque certains qui étaient un peu pessimistes avaient prévu une augmentation pendant l'été.
J'en faisais partie, on va pas se mentir.
Pour reconnaître qu'il y a eu un plateau au mois de mai et au mois de juin sur les ventes, hein, vous le savez, hein, les réseaux en ont beaucoup parlé. On s'attendait à ça, mais non, c'est plutôt stable. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer également, les banques ou certaines banques continuent à faire de la promotion sur
des taux. On attendait les fameux oui. prêts bonifiés qui pouvaient peut-être potentiellement se terminer. Elles les prolongent en fait.
Oui, hein. Et en ce moment, il y a des discussions, notamment une grosse discussion sur la réforme du HCSF.
Le Haut Conseil pour la stabilité financière.
Absolument, pour les taux de crédit, pour peut-être envisager les possibilités d'engagement sur les sûretés, notamment avec l'hypothèque, par exemple, mais également un plateau de taux d'intérêt. C'est intéressant parce que les banques, en fait, elles se sont rendues compte, vous avez vu les statistiques des trois derniers mois, ils n'ont pas fait le plein. Il y a une érosion des comptes de dépôt, intéressant, les comptes de dépôt, parce que la banque, on le sait, ne gagne pas beaucoup d'argent sur le crédit, puisqu'elle se refinance sur le marché interbancaire, mais elle a besoin de conquérir des clients. Et au niveau de la banque de détail, aujourd'hui, est un peu en crise. Donc, les banques font de la promotion pour attirer à elles, effectivement, de nouveaux accédants, primo-accédants, et des petits investisseurs, un peu, et notamment les secondes accédants, mais on en parlera peut-être dans un peu
de temps. Bien sûr, mais il y a quand même ce sujet, effectivement, d'envie de conquérir de nouveaux clients de la part des banques. Maintenant, je ne veux pas, encore une fois, effectivement, certains d'entre nous, et moi la première, je redoutais qu'effectivement l'été puisse commencer à piquer sérieusement sur le marché du crédit, c'est pas encore le cas. On peut quand même légitimement s'interroger sur la durée de cet apaisement sur le marché des crédits immobiliers, sachant que on l'a vu cette semaine encore avec le regain de tension au Moyen-Orient, la dette de l'État français s'est re-rapprochée assez dangereusement des 4% sur la dette à 10 ans, qu'on a notre débat budgétaire à l'aube d'une élection présidentielle, tout ça. on peut éventuellement se dire qu'a priori, même si pour l'instant ça pique pas trop, l'avenir est très incertain.
On a atteint un paroxysme sur la crise du logement, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on arrive à l'aube justement de la rentrée scolaire, notamment pour les étudiants. Et là, c'est plus grave que les premières années, parce que vraiment le fossé s'est creusé. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il s'est creusé structurellement. Hein, sur effectivement, j'avais titré qu'on trouve plus facilement du travail qu'un étudiant.
Mais on va en parler, Sylvain. Il veut tout de suite.
Et l'autre sujet qui est important, qui est intéressant, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les banques continuent à vouloir conquérir. C'était pas arrivé, en fait, dans les précédentes hausses, même graduelles, ou violentes. Hein,
mais peut-être que chat échaudé, parce que pour le coup, la crise inflationniste de 2022 liée au déclenchement de la guerre en Ukraine, elle est pas si vieille que ça. Donc je pense qu'on a quand même en mémoire ce qui s'est passé, du blocage du marché. Juste d'un mot pour qu'on termine et qu'on englobe notre topoto à l'intérieur de ça. Il y a toujours cette assurance de prêt dont on parle régulièrement, mais sans doute pas assez.
Absolument.
Qui reste quand les taux sont pas si élevés que ça quand même, mais qui sont plus élevés que ce qu'on a connu il y a 4-5 ans.
Bien sûr.
Malgré tout, un bon levier aussi sur ce crédit immobilier.
C'est 20 000 euros, les écarts peuvent aller sur un crédit de 20 ans, sur des écarts jusqu'à 20 000 euros.
Ouais, c'est
d'économie.
Pas sur c'est toute pas... la durée du crédit, on précise. Hein.
Alors oui, pardon, 20 000 euros sur toute la durée du crédit. En moyenne, et notamment pour les personnes qui sont dans des tranches d'âge entre 28 et 40 ans, on va dire,
ouais, c'est large. Merci Sylvain.
On est sur des taux... je suis très au-dessus. On est sur des taux qui sont quand même aujourd'hui entre 0,32 et 0,42 pour les banques les plus chères, qui ont bien sûr des captives en matière d'assurance.
Ouais, bien sûr.
La loi Lemoine prévoit qu'on peut
changer d'assurance
à condition de respecter les mêmes conditions d'octroi de crédit, les mêmes garanties, bien évidemment. Alors, généralement, la bonne astuce, c'est de signer le contrat d'assurance avec sa banque,
puisque
la banque vous fait comprendre qu'elle vous octroie le prêt avec l'assurance,
ouais.
Et qu'ensuite, on peut arbitrer. Mais mine de rien, sur des mensualités, on a calculé sur des mensualités qui sont entre 1300 et 1500 euros, le gap peut atteindre entre 70 et 80 euros
mois. C'est pas neutre. Hein.
C'est pas neutre. Alors, ça fait, en mètre carré, on va prendre un exemple très clair, ça fait un gain en moyenne, ça peut aller de 2 à 5 mètres carrés selon les villes, en fonction du prix moyen au mètre carré. Si vous prenez un prix moyen au mètre carré à 4 000 euros, par exemple, pour un appartement qui vaut...
À Lyon, 200, par exemple, en
qui vaut 250 000 euros, vous gagnez l'équivalent entre 2 et 3 mètres carrés.
Ouais,
c'est pas neutre du tout, surtout quand on est sur des prix au mètre carré qui sont entre 5 et 10 000 euros parfois.
Et là, on part à pareil pour les 10 000. Mais c'est intéressant.
Alors, c'est un levier, c'est un bon levier.
Et c'est un bon levier, mais alors du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment à l'obtention du crédit qu'il faut le faire. Parce que moi, gagner du pouvoir d'achat en mètre carré une fois que je suis déjà propriétaire, bon, et donc là, il y a aussi un truc à jouer. Je sais que tous les pros de l'assurance de prêt qu'on reçoit régulièrement nous disent c'est vrai que la loi Lemoine commence à prendre sur la renégociation en cours de crédit,
de plus en plus.
Mais pas assez à l'ouverture du crédit. Et c'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'on est dans cette négociation un peu...
Les Français craignent toujours quand ils souscrivent un crédit
de déplaire
aux banquiers. Alors c'est pour ça que je ne saurais trop recommander. Et c'est vrai que c'est très efficace, sinon ils n'existeraient pas. Ce sont les courtiers.
Bah, bien sûr.
Parce que les courtiers, en fait...
on ne fait pas juste la promo des courtiers,
commerce,
en fait.
Le sujet, commerce, c'est aussi
des négociateurs.
Voilà, je reprends... J'ai interrogé Diane Lévy d'ImoPrêt qui me disait effectivement aujourd'hui, en termes de flexibilité mais aussi même de mental des banquiers, ils sont habitués à ce que les clients négocient de plus en plus l'assurance. Moi, je ne saurais trop recommander, même si on a un très bon compte en banque, même si on a une très bonne relation bancaire,
avec son banquier,
de faire une mise en marché, demander des devis et de recourir à un courtier qui prendra donc un petit peu d'honoraires, mais ça vaut la peine quand on voit les économies.
Et puis il y a des spécificités techniques à prendre en compte qui, quand bien même on est un petit peu habitué, franchement, quand on met le doigt et le nez dans son contrat d'assurance de prêt,
c'est complexe.
Il faut pas oublier que la banque, on est client de la banque. Hein.
Bah, bien sûr.
On n'est pas soumis.
Mais je sais, Catherine, mais vous savez très bien comment ça se passe au moment de la négociation. C'est toujours un équilibre très fragile. Qui a le pouvoir?
Alors, c'est interdit. Le banquier ne peut pas vous obliger à souscrire le crédit. Mais dans la façon de souscrire.
Mais entre la réalité.
C'est pour ça que le courtier est intéressant, parce que le courtier, en fait, est mandaté par son client.
Oui, et quelque part, on peut se dédouaner.
Quand il arrive chez le banquier, il arrive avec 15-20 dossiers.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Il négocie et il dit pour l'assurance. Pas de problème, je prends en charge directement. Il y a des courtiers aujourd'hui et des réseaux de franchise de courtage qui ont créé leur propre structure de courtage d'assurance.
Oui, bien sûr.
Très efficace, pas cher du tout, vraiment très efficace en termes de prix. Moi, je l'ai fait pour moi et franchement, c'est sans appel en termes de résultats.
On est très heureux pour vous.
Merci.
Vraiment, on est très heureux pour vous. Bon, ça n'a échappé à personne.
Je suis très ému, merci.
Ça n'a échappé à personne, il fait un peu chaud.
Oui.
Et canicule oblige, et forcément les experts de l'IMO, on en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai envie de dire plusieurs années quand même, parce que les bouilloires thermiques dans les experts de l'IMO et dans nos métiers respectifs de journaliste IMO, ça fait longtemps qu'on en parle quand même. C'est dommage que les politiques ne nous écoutent pas suffisamment, enfin bref. Du coup, là, il y a quand même un sujet autour du logement neuf. Je vous pose la question comme ça, Catherine, parce que je vais être un peu violente, mais on a vu passer plein d'infos sur « Oh là là, moi j'ai été livré récemment, logement neuf, noté A ou B au diagnostic de performance énergétique et pourtant il fait 40 degrés chez moi. » En fait, le logement neuf, ça sert à rien. Ça nous aide pas à lutter contre l'état de bouilloire thermique.
Ça devrait. Et en tout cas, ce que la canicule a montré, c'est que maintenant les promoteurs, ils doivent aussi envisager leur métier autrement. Il ne s'agit plus de vendre des appartements qu'on empile, qu'on optimise. Il s'agit aussi de réfléchir à ce que seront ces appartements dans 50 ans, ou peut-être même juste dans 10 ans, dans 20 ans, et à devenir des vrais experts du climat, en tout cas à réfléchir à la manière dont on fait la ville. Il ne suffit pas de dire « j'ai un beau foncier et je construis et voilà ». Donc, ils sont de plus en plus nombreux à réfléchir là-dessus. Récemment, j'ai assisté à une présentation qui a été faite par Cogedim, ouais, pour Paltarea, sur la manière dont eux, ils envisagent le logement et la démarche qu'ils engagent justement en faveur d'une architecture bioclimatique et des économies d'énergie et aussi comment ils prennent en compte cette question de la canicule. Alors je peux peut-être expliquer comment...
Ah mais vous allez voilà. Pas peut-être, vous allez le faire sûrement, Catherine.
Donc ça se décide en amont. Déjà quand on a le foncier, on réfléchit à la manière dont on va poser l'immeuble, à l'orientation des façades, des différentes façades, et ensuite aux matériaux qu'on va utiliser, en utilisant le maximum des matériaux qui ne captent pas la chaleur, ou en tout cas qui permettent d'être le plus stable possible thermiquement.
Ouais.
Ensuite, quand on va protéger les façades, au nord, on va mettre plutôt des grandes baies vitrées, parce que là, le soleil...
Il tapera moins, voilà.
Et là où, à l'ouest, par exemple, on va mettre des volets occultants, enfin des volets roulants. On va mettre au-dessus des balcons ce qu'ils appellent
des brises-soleil.
Voilà. Et puis on fait des logements traversants qui permettent de faire des
d'aérer, courants d'air. Évidemment. Et il y a de la domotique aussi, parce qu'effectivement, quand vous disiez il faut qu'à l'ouest, on ait des panneaux occultants, des volets occultants, il y a aussi cette idée que ça puisse aussi spontanément, quand le matériel ressent la chaleur... Voilà. C'est quand même hyper intéressant aussi d'avoir...
Des brasseurs d'air qui, étonnamment, sont très efficaces pour l'avoir éprouvé.
Pas cher du tout.
Mais c'est un truc de dingue. On a vu tous les reportages sur les gens qui se ruent.
Dans la Caraïbe, depuis le 19e siècle.
Oui, en Asie ou ailleurs, c'est en Afrique. Et puis, ce qu'ils font aussi, ils installent dans certains programmes, ça dépend un peu de la situation géographique, des pompes à chaleur réversibles.
La clim ? Bah oui, il faut le dire.
Voilà.
Mais
réversible, et puis ça permet un rafraîchissement qui est pas à la hauteur d'une clim classique, parce qu'une clim classique, on peut descendre jusqu'à 18, 17. Là, ça permet un rafraîchissement de 24, 25 degrés, et c'est pas mal. Il y a un autre sujet aussi qu'ils prennent en compte, et ça, il y en a de plus en plus qui le font, c'est les arbres. Parce que les arbres, c'est pas fait que pour faire joli, c'est fait aussi pour rafraîchir un territoire.
Mais bien sûr.
Donc, les arbres, la végétation au sol, tout ça, ça permet de dégager de la fraîcheur, de dégager de l'eau. Les arbres, entre eux, ils font de l'eau. Et donc, de lutter un peu contre le réchauffement climatique. Donc, ça s'anticipe énormément à l'avance. Une fois que l'immeuble est construit, c'est possible, mais c'est plus compliqué.
Mais oui, mais c'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait, et tant mieux si des promoteurs anticipent ces changements-là, parce que là, sur l'aspect réglementaire, je crois que la RE 2020 version 2025-26, elle prend en compte effectivement un peu le confort d'été, plus qu'elle ne le faisait auparavant,
très
mais
peu.
En réalité, les matériaux...
Que ce soit 20 ou 28, elle le prend très peu. Et en fait, en réalité, je vais vous donner une statistique, la qualité de l'air intérieur qui circule dans le neuf est plus polluée que dans l'ancien.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, la structure des matériaux aujourd'hui, dans les modes constructifs, à cause des normes, surisolé en fait les appartements. Les a surisolés. On a créé ce qu'on appelle un effet caouet, ou un effet cocotte. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent des baies vitrées, on a oublié les occultants. On a souvent des largeurs pour de la perspective qui ne permet pas, par exemple, de contrer la chaleur. Par exemple, des couleurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a un effet sur les couleurs et la qualité des matériaux.
Oui, bien sûr.
Sur les portes, par exemple, sur tous les ouvrants et sur les parties communes, en fait, c'était très peu détalonné. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse très peu de hauteur pour laisser filtrer l'air. effectivement, Catherine a raison, on fait de plus en plus de traversants pour créer des courants d'air. Il ne suffit pas d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air. En fait, il faut créer un courant d'air naturel, ce que font d'ailleurs les Africains dans la Caraïbe, très sans énergie extérieure, avec des brasseurs d'air. Donc le paradoxe, et c'est un vrai paradoxe, c'est incroyable quand même, c'est que les promoteurs, en fait, ont créé un habitat qui est beaucoup moins agréable à vivre à périmètre constant que certains immeubles conçus dans l'ancien, notamment des pierres très épaisses qui conservent la fraîcheur l'été et réchauffent l'hiver. Nos beaux vieux sens paysans des belles longères normandes, par exemple, ou à Colombage, étaient conçus pour cela. La couleur. Aujourd'hui, vous avez des molécules dans la, par exemple, la peinture blanche. Mais qui réfléchit la chaleur.
Salut les amis de Cool Roof.
Alors ça, on le sait en Grèce.
Ouais, et avec des coquilles d'huîtres à l'intérieur. Absolument. Pour permettre à la lumière.
Et c'est très efficace, puisque il y a des jeunes qui ont lancé des start-up avec des expérimentations en matière de nanotechnologie sur des toutes petites molécules qui sont installées dans la peinture. Ça coûte pas plus cher, dont on revêt les toits, etc. Ouais, je vais prendre un exemple très simple. Paris, c'est des toits en ardoise et c'est du zinc. C'est un conducteur de chaleur, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que si vous voulez faire frire des œufs ou faire des omelettes sur les toits
de Paris...
Je
n'ai pas fait le test, je voulais faire avec les enfants.
Donc c'est juste l'enfer. On est sur des températures de 38 à 44 degrés, lorsqu'on était en pointe de canicule, sous les toits. Donc c'est juste impossible à voir avec le réchauffement climatique. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est que des promoteurs comme Altarea, que je dis, comme d'autres promoteurs, réfléchissent justement pour déconstruire leur idée de surexposer ou de surisoler pour laisser l'air entrer.
Oui, mais c'est... Et à coût constant, c'est-à-dire ce que dit le patron de Cogedim, c'est non, ça ne renchérit pas le prix du mètre carré.
C'est toujours ce sujet,
puisque les constructeurs de matériel, hein, les pompes à chaleur et autres, ils ont aussi atteint un seuil et ça ne bouge plus. Et puis l'effet d'échelle fait que on peut économiser. Mais puisqu'on est sur l'énergie, j'aimerais quand même dire un mot, et c'est important, sur l'eau. Parce que l'eau, c'est la ressource.
C'est bien. L'eau, c'est
non,
bien.
Mais en période de canicule, l'eau, elle est précieuse. En France, on a beaucoup de chance. On a des cours d'eau, on a de l'eau. Mais dans le monde, il n'y en a pas. Donc, c'est aussi aux promoteurs de travailler sur ce sujet de l'eau. Comment on économise l'eau? Comment on transforme les eaux grises? Absolument. Pour
Il y a même certains pays élus aujourd'hui qui interdisent les constructions neuves dans le sud s'il n'y a pas l'équivalent en ressources en eau en équivalence aujourd'hui. Un vrai sujet.
Tout est lié et
le prochain enjeu mondial, c'est la pression.
Mais bien sûr.
C'est la pression hydrique.
Et je salue au passage, comme disait récemment le patron de Priceable en France, Loïs Bourzic, qui me disait en fait, c'est dramatique à quel point finalement l'État et j'ai envie de dire l'action publique continue de regarder l'hiver et ne regarde pas assez l'été. Et c'est quand même la clé de tout ça. C'est-à-dire qu'évidemment, parfois, on a l'impression que on ne peut pas faire les deux. Et en fait, si, on peut faire les deux, la preuve en est. Quoi.
Et la Fondation pour le logement le pointe à chaque fois. Il y a des morts dans la rue l'hiver, mais il y a plus de morts dans la rue l'été. Et là, la différence avec cette canicule, c'est que les morts, ils sont dans les logements. On a entendu hier une dame de 96 ans
qui est décédée dans son appartement.
Oui, ils passent au-dessous des radars. 2000 enfants dorment dans la rue, de moins de 3 à Paris.
Ouais.
Ça touche toutes les couches de la population. On est quand même sur un phénomène important. Je voudrais juste, si vous permettez, 30 secondes.
On se dépêche parce qu'il nous reste 8 minutes, on n'aura fait que de la canicule.
À deux endroits de la planète, l'espace était impropre à la vie humaine. À deux endroits de la planète, ça s'est produit.
Ouais.
Récemment, à Jacobabad, au Pakistan et dans le sud de l'Arabie Saoudite, à deux endroits, le rapport entre l'humidité et la chaleur, vous savez, le corps crée de la sudation pour garder une température à 37 degrés. Mais s'il n'y a pas un taux normal d'humidité, cette opération ne peut pas s'opérer. Donc, l'humidité accompagnée de la chaleur empêche la sudation du corps et entraîne des maladies cardiaques. Et en quelques heures, on meurt.
Bon, c'est tellement gay que on va changer.
Bon week-end.
BFM Business. On a fait un point quand même topo sur la canicule. Et quand même, l'aspect positif, c'est que nos promoteurs immobiliers le prennent en compte et avant nos gouvernants. Donc, c'est plutôt pas trop mal, de ce point de vue-là, en tout cas. Un point marché quand même. On s'était dit qu'on allait le faire parce que ça y est, on est à mi-année. Alors, on va essayer d'aller très, très vite parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Mais déjà, qu'on commence un peu sur les statistiques. On a eu tous les grands réseaux, quoi. Ceinturi, Orly, La Forêt. J'en passe bien d'ici, tout ça. On en est où, là, aujourd'hui, de nos volumes de vente?
Alors, les volumes de vente, si on prend les trois derniers mois aujourd'hui, on est, grosso modo, on sera sur 900 à 920 000 transactions si on prend le flux actuel. C'est poussif. Pourquoi? Parce qu'on connaît un plateau déjà depuis deux mois. Les patrons de réseau sont passés. On a vu que sur les deux derniers mois, il y a un coup d'erreur. Alors, c'est intéressant parce que le premier semestre 2026, ça a été très bon. Enfin, il y avait une très belle lancée.
Le premier trimestre.
Le premier trimestre 2026 a été très bon. Et à partir de mai, ça commence à se tasser. Et là, on est sur un plateau. Et très franchement, ça bouge pas du tout. Ou très très peu. C'est assez inquiétant. D'ailleurs, même à l'aube de l'été, où on fait son marché immobilier souvent, il y a une dynamique qui est faible. Je vais prendre quelques chiffres. Les chiffres, c'est la baisse à périmètre constant, la même période. Sur Paris, on atteint les moins 25% sur certains arrondissements.
En volume de vente ?
En volume de vente.
Ah ouais.
Sur Lyon, on est à moins 17%. Alors le littoral ne connaît pas la crise, côté Nice, mais sur la région centre, on oscille entre 13 et 17%.
Et les prix s'ajustent ou pas rapidement, Sylvain ?
Alors, les prix s'ajustent, mais on a un sujet, qui est le sujet des secondo-accédants qui, eux, mécaniquement, fournissent de la matière sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent. Il ne faut pas oublier qu'une partie du stock, pour les primo-accédants dans l'ancien, il est aussi généré mécaniquement par la revente des secondo-accédants. Ouais. Et les secondo-accédants, moi, alors on a titré comme ça, parce qu'on a fait notre journaliste, on a dit on est prisonnier de sa propre maison, parce qu'en fait, on est prisonnier de son crédit.
Oui.
Quand vous avez emprunté à 1%, quand vous avez emprunté 1%, que vous voulez revendre, vous allez revendre et vous allez réemprunter éventuellement sur un plan. Sauf que vous allez réemprunter entre 3,5% et 4,5%, sachant que les secondo-accédants, généralement, ont largement dépassé la quarantaine, puisqu'en moyenne, on accède à la propriété aujourd'hui à peu près à 38 ans.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont prisonniers de leur crédit.
Il y a 20 ans, on accédait à la propriété à 28 ans. Aujourd'hui, on accède à la propriété entre 35 et 40 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts du crédit plus l'âge des primes, des secondo-accédants qui voudraient racheter, eh bien écoutez, c'est incroyable, mais ça assèche une grande partie du stock sur une mécanique de blocage du marché avec taux versus la mobilité résidentielle. Les gens restent enfermés dans leur crédit parce qu'ils se disent j'ai eu un super taux à un moins de 1%, je lâche pas et je resterai.
Ouais, mais ils achèteront moins cher.
Vu le contexte moral d'aujourd'hui, le contexte moral avec tout ce qu'on nous raconte, l'animosité. Et bien sûr, une élection majeure, il n'y a pas de quoi moraliser les Français.
Petit commentaire, Catherine, où on passe au marché locatif, sachant qu'il nous reste 4 minutes, et là je commence
à passer. On passe au marché locatif.
On va le faire rapidement, parce que je sais que David Benbassa, le patron de Bernissi, était ce matin chez nous, donc on va essayer de le dire rapidement, mais en gros, le marché locatif, ça va pas bien, on va pas se mentir.
Oui. Non, mais là où c'est inquiétant, là où c'est vraiment inquiétant, puis là il y a un vrai sujet quand même, c'est un sujet de société, on en dépasse très largement la rentabilité, la gestion d'actifs, etc. Il s'agit de la vie des gens, il s'agit de la décence, de la dignité au logement. C'est une catastrophe. En 2024, les étudiants étaient 17% à avoir renoncé leurs études.
Ouais.
Et quasiment le même chiffre pour les CDI non signés dans les grandes agglomérations, faute de logement.
Ouais, c'est ça.
C'est monté jusqu'à 20%. Là, je vais vous dire, on sera entre 22 et 25%.
Non, mais là, ce que vous dites en gros, et c'est ça qui est assez dramatique, d'où l'intérêt d'alerter aussi les pouvoirs publics là-dessus, c'est de dire, en fait, à un moment donné, c'est tout qui est lié au logement. C'est-à-dire que, fut un temps, on avait son logement, il fallait trouver du taf. Là, aujourd'hui, j'aurais beau avoir le boulot, en fait, j'ai pas le logement qui
le logement, c'est un déterminant social. Voilà. C'est un marqueur social.
Et on va espérer que ce sujet du marché locatif soit aussi au cœur de nos débats en vue de l'élection présidentielle, compte tenu des chiffres qui passent et qui se ressemblent, et c'est de pire en pire. Bon, sur l'immobilier tertiaire, ça va comment, Catherine ?
Malheureusement, j'ai vraiment plus...
C'est la dernière... Alors, je le dis, auditeurs et téléspectateurs, c'est notre dernière émission en live de la saison. Et là, on va se terminer.
Alors, je vais dire léger mieux.
Mieux. Là, vous me plaisez, Catherine.
Donc, j'ai pris les chiffres d'Imostat. Imostat, ça agrège les chiffres des grands conseils en immobilier tertiaire. Au premier semestre, la demande est en baisse de 5%, mais il y a un léger mieux au deuxième trimestre. Bon, alors, est-ce que continuer?
Ça fait le sens inverse du résidentiel.
Oui, exactement. Ouais. Alors, pourquoi ce coup de frein? C'est un peu comme le résidentiel, c'est-à-dire que, s'agissant des grandes entreprises et des entreprises en général, l'incertitude ambiante, la géopolitique et autres n'incitent pas à changer de sièges sociaux ou de locaux. Donc, les bureaux, la vacance dans les bureaux, elle continue de grimper. En Île-de-France, je prends que l'Île-de-France, on est à 12%.
Wow.
On est à 15% à La Défense. Je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est pas de parler forcément des volumes, c'est de parler de la qualité de ce qui se loue maintenant. Puisque les propriétaires sont obligés pour séduire. Alors, les entreprises séduisent les jeunes salariés et les propriétaires doivent séduire les entreprises. Ouais. Donc, il y a une montée en gamme des bureaux, de certains bureaux. Et ce sont ces bureaux-là qui attire les clients, les utilisateurs.
Le côté positif, finalement.
C'est le côté positif. On va vers la conciergerie des codes de l'hôtellerie. J'ai visité, alors je peux parler d'une vieille tour, parce qu'elle est de 1974, la tour CB21, qui est à la Défense, qui appartient à Covivio. Il y avait Suez dedans. Suez prenait 44 000 mètres carrés. Suez est partie l'année dernière. Donc Covivio s'est dit, j'ai 44 000 mètres carrés sur les bras, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ils ont pris le parti de rénover, d'engager une rénovation dans un style un petit peu vintage. Je vais citer l'architecte, parce que dans mon article, je n'ai pas eu l'occasion de le citer, c'est Nicolas Sisto. Donc de rénover cette tour en proposant des tarifs différents en fonction des niveaux de service qu'ils vont offrir. Je prends les locaux, il y a une partie des locaux qui ne va pas être rénovée tout de suite. Je les prends à 380 euros le mètre carré. J'ai des services premium tout en haut, avec de la rénovation, avec des sky suites. Un espace événementiel avec la possibilité de dormir. Donc,
au bureau,
les stars qui viennent à Plénitude Arena, elles peuvent dormir dans ces B21. Là, on est à 550.
Ouais, forcément, monter en gamme, hausse de prix, c'est le côté positif. Et il nous reste 45 secondes et je veux quand même qu'on voit les photos formidables. Je suis désolée. Ça a été très compliqué parce qu'on a passé beaucoup de temps sur d'autres sujets, mais ils sont tout aussi passionnants et je vous retrouverai tous les deux à la rentrée, formidable. Mais quand même, location de vacances paradisiaque, donnez-moi du rêve pour terminer.
Je vous emmène en vacances, je vous emmène sur la Côte d'Azur, dans des villas sublimes. Pour ceux qui ont l'image, on le voit. Il y en a une qui est à Grimaud. Alors quand même, pour s'offrir cette location, alors on dit on vit un moment d'exception ou on vit une expérience.
J'aimerais bien vivre cette expérience.
Donc il y a spa, piscine, débordement avec vue sur la Méditerranée. Il faut quand même prendre une location à 12 000 euros par jour. Donc,
12 000 euros par jour.
Voilà, donc 200 000 par semaine. Mais nous ne sommes pas forcément le public cible. Donc celui de Gris.
Alban, il est intéressé. Notre réalisateur, qui est partie prenante de l'émission, c'est bon, ça va.
Je peux vous avoir un prix. Donc à 11 999. Donc, et l'autre image que l'on voit, c'est à Ramatuelle, où il y a un festival de théâtre qui est sympa aussi. Donc ça, c'est sur le site de Daniel Féo. Et alors, évidemment, pour nous, ce sont des prix un petit peu stratosphériques. Mais il y a une clientèle.
Évidemment.
Et des séries télé, enfin des séries Netflix, on a le droit. Comme Emily in Paris ou White Lotus.
Absolument.
Qui se passe sur la Côte d'Azur. Ça fait beaucoup pour faire venir les Américains qui adorent la
Côte. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres, malheureusement, sont toujours plus pauvres.
Non, mais c'est nul comme mot de la fin, Sylvain. Allez, je vous emmène. J'emmène Sylvain Lévy-Valency, le cofondateur de Radio Imo, et Catherine Bocquet, cette journaliste indépendante dont on dépend tellement.
Si j'y vais, je fais un kibbutz.
On y va. Allez, banco, on y va. On part en vacances. Part en vacances avec le sourire. Et on revient évidemment à la rentrée dès la fin août, d'ailleurs, sur BFM Business, dans les experts de l'Imo, pour une nouvelle saison qui sera tout aussi passionnante, encore plus politique. De fait, en tout cas, je remercie tout le monde de nous avoir suivis cette saison. Je remercie en particulier Alban et Venedia et tous les autres, mais j'avoue que c'est mes petits chéris d'amour que j'espère retrouver à la rentrée pour préparer cette émission et être proactif dans cette émission. Merci à vous pour vos commentaires, votre participation, et je vous souhaite de très belles vacances.
Les experts de l'Imo sur BFM Business.